Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Au cœur du pays gersois, à Lectoure, dans un ancien monastère bénédictin, le monastère de Saint-Genis, vit aujourd'hui une petite communauté de moines orthodoxes de la fraternité Saint-Benoît, communauté rattachée au patriarcat de Belgrade. Quelques jours avant Noël, le Noël catholique, puisque les orthodoxes l'ont célébré ce 6 janvier, nous les avons rencontrés. Une rencontre étonnante, déroutante parfois. C'est le père abbé du monastère qui nous accueille, le père Antoine.
C'est le président que vous connaissez de la paroisse. Le vicaire, voilà.
Bonjour. Oh, elle est magnifique, ce qu'elle est belle.
Vous êtes déjà venu jamais ?
Eh non, je ne connais pas du tout.
Ah oui, oui. Je vais donner quelques explications. Oui, c'était pas comme ça qu'on l'a acheté. Hein. Je vous dis de suite, c'était dans un état minable. Ça avait servi de tout, il y avait même des têtes de mort de partout, c'était un village. Donc, on descend des marches parce que avant la nationale, elle était au niveau du parking du stade et de nous. Et puis, la route a monté et voilà, et maintenant, on se retrouve avec des marches. Voilà. Donc, de l'église qui est dans ce lieu, depuis le 4e siècle, il y avait Saint-Genis qui a vécu là et qui est enterré, on a son sarcophage. Et ensuite, il s'est créé une communauté monastique, jamais nombreuse de 3 ou 4 moines, qui dépendait en même temps de Moissac. Ensuite, il y a eu jusqu'à la Révolution française, et après ils sont tous partis, il n'y en a plus. Voilà, donc c'était des moines bénédictins. Et ensuite, après la Révolution française, au 19e siècle, l'abbé de Cortade, qui était un monseigneur de Lectoure, qui dirigeait le collège ecclésiastique, a racheté, mais il n'a pas fait grand-chose parce que bon, il est mort très vite. Voilà. Et donc après, c'est resté fermé. Ça a été acheté vers 1998 par la fameuse association Le Patriarche, qui a tourné en foire. Et donc, lui, il est parti aux États-Unis. Et donc, nous, on l'a acheté en 2000 pour une bouchée de pain, parce qu'il voulait s'en débarrasser très vite. Alors, il reste de l'église, parce qu'à la Révolution française, il a convendu, elle allait jusqu'à la route. Et maintenant, il ne reste plus que le chœur et le transept. Et la nef, elle est disparue. Et ce fameux abbé de Cortade a fait les deux petits clochetons qui sont de chaque côté. Il a restauré, il a fait une façade et il a mis les petits clochetons que vous avez pu voir à l'extérieur. Donc nous, en 2000, nous avons acheté et elle a été consacrée par un métropolite de Serbie, parce qu'on dépend du patriarcat de Serbie en tant qu'orthodoxe. Et il y avait 4-5 évêques qui sont venus visiter et qui étaient aux cérémonies. Voilà. Il y avait beaucoup de monde, on était plus de 500 au repas dans la salle des fêtes, donc c'était un peu serré ici.
Pardon, je peux vous demander l'origine de cette communauté serbe orthodoxe ici à Toulouse, son histoire, pourquoi, comment ?
C'est-à-dire que moi j'étais orthodoxe et puis je me suis rattaché à l'église orthodoxe serbe. Parce que l'église orthodoxe serbe, elle était plus près de la France, elle est plus latine que par exemple à Moscou, voilà. Et puis les Serbes, ils ont beaucoup souffert, on les a beaucoup soutenus au moment où ils ont eu pas mal d'ennuis. Et donc on a fait des quêtes, tout ça, et ils nous ont pris dans leur juridiction.
Il y a une communauté serbe ici ?
À Paris, il y a un évêque.
Non, ici, dans la région ?
Il y a des Serbes, mais on a surtout beaucoup de Roumains qui viennent ici, parce qu'il y a beaucoup de Roumains dans la région.
Et donc, ils sont affiliés, qui viennent...
Les Roumains, des Russes et des Serbes, voilà.
Il y a des différences dans le...
Des Grecs, il n'y en a pas, parce que les Grecs, c'est plus compliqué, parce qu'ils ne suivent pas le même calendrier que les autres. Ils suivent le nouveau calendrier, ils suivent le calendrier catholique. Mm-hmm. Par exemple, Noël, ils le fêtent le 25 décembre, et nous, on le fait le 7 janvier. Voilà, il y a 13 décalages, parce que, bon, il y a 13 jours de décalage, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop de rapport avec les Grecs. Voilà.
Et vous-même, vous êtes orthodoxe de naissance ou
Non, j'étais prêtre catholique romain, et religieux catholique romain, et frère des écoles chrétiennes, même, au début. Et puis, après le concile, je me suis rattaché à l'église orthodoxe, qui était restée plus fidèle, traditionnelle, voilà, dans ce pour ça.
Donstavronso proskinome.
le rite byzantin, l'icône, qui n'est pas en premier lieu une œuvre d'art, mais essentiellement une image pour le culte, trouve son sens profond dans la liturgie vécue, soit dans l'église, soit à la maison, dans la prière familiale ou personnelle. En leur annonçant la présence du royaume de Dieu parmi nous, en rayonnant la lumière divine qui éclaire les visages des justes et des saints, l'icône accompagne les fidèles tout au long de leur vie. À Saint-Genis, elle tapisse l'église. Certaines sont surprenantes. Suivons le Père Antoine.
Alors, donc, dans une église orthodoxe, il y a en général pas de statue, mais il y a des icônes. Donc, ce sont toutes des icônes peintes. Parce que maintenant, on vend des reproductions. Par exemple, ça, de chaque côté à droite, il y a le Christ. Vous voyez, ce sont nos moniales que nous avons en Biélorussie qui nous font nos icônes. Elles sont très raffinées. Et alors, c'est le Christ en empereur byzantin. Et de l'autre côté, Notre-Dame, la Mère de Dieu, aussi en impératrice byzantine. Voilà, après, vous avez des icônes de Géorgiens, des saints Géorgiens, et là vous avez Saint Constantin et Sainte Hélène qui revenaient beaucoup dans l'Église orthodoxe. Voilà. Donc il y a des iconostases, ce qu'on appelle ce mur en bois, et derrière c'est une chapelle où nous avons sauvé au moment du Concile Vatican II, vers 1970 par là, on a sauvé tous ces reliquaires parce que les couvents ont vidé les monastères de reliques, et donc nous avons nous récupéré des reliques avec les reliquaires, par tombereau presque. C'était impressionnant. Et donc, nous les vénérons, parce que les reliques, c'est quand même des reliques de saints, quand même. Et là, nous avons un très beau reliquaire. Nous avons les saints du diocèse d'Auch, dedans. Vous pouvez en servir, ne pas vous accrocher, voilà. Il y en a trois en France, ce reliquaire. Il y en a un à Vézelay et l'autre à Sainte-Marie-Madeleine, là-bas en Provence. Voilà. Mmh. C'est le même reliquaire. Le fabricant en a fait trois et nous avons pu en sauver un des trois, voilà, qui est ici. En ce moment, on est dans le carême de l'Avent, c'est-à-dire de Noël. Et donc, il y a une icône ici, qui est une icône peinte, et qui est très belle. Et c'est l'icône de l'Avent. On va vers la naissance du Christ. Et ce sont tous les prophètes qu'on fête chaque dimanche. Voilà, et donc c'est une très belle icône, faite par les sœurs russes aussi. D'ailleurs, c'est écrit en russe, voilà.
Vous parlez le russe aussi ?
Non, je ne suis pas doux en langue. On peut parler occitan ici, quand même, parce que moi, j'écris en provençal, et le père parle occitan, oui. On aime les liturgies occitanes, nous, c'est beaucoup plus chantant, c'est beaucoup plus... Mais on ne le fait pas trop parce que les gens ne parlent plus beaucoup l'occitan.
Et, oui. Et ici, vous célébrez tous les dimanches ?
C'est qu'on a sept églises. Alors ici, on dessert deux dimanches, le dernier et le premier. Ah oui, alors nous avons une église à Tarbes, une à Toulouse, une à Bordeaux, une à Nérac et une à Albi. Donc demain, nous allons à Albi. Je prêche à Albi demain. Et on a des prêtres. Dans les paroisses, ce sont des prêtres mariés, mais les prêtres mariés ne confessent pas. Donc c'est nous, les moines, qui devons. On va dans les paroisses pour confesser les fidèles. Voilà.
Ah d'accord, parce que vous êtes moine.
Voilà, on est des moines.
Moine et prêtre.
Moine, prêtre, voilà. On appelle ça hiéromoine, ça veut dire prêtre-moine. Donc ça, quand on a inauguré l'église, on a fait faire une icône peinte par les sœurs, et on l'a appelée patronne de la Gascogne, et l'enfant Jésus porte un épi de blé. Et nous la fêtons le 14 juillet. Le 14 juillet, nous avons décidé de faire une fête religieuse et nous bénissons les épis de blé et que les gens mettent chez eux, mmh, voilà, un bouquet d'épis de blé. Parce que j'ai vu un jour, en allant, on va vers l'autoroute, le troisième village, et l'enfant Jésus tient un épi de blé sur une statue qui est à la sortie du village. Et Castetarouille.
Non,
Castetarouille. Voilà, là, c'est Saint Martin de Tours. Et Sainte-Marie-Madeleine, parce que nous aimons beaucoup Sainte-Marie-Madeleine, nous avons une relique importante, Sainte-Marie-Madeleine. Là-bas, c'est le prophète Élie, parce que les orthodoxes vénèrent beaucoup le prophète Élie. Et là, c'est Saint-Séraphin de Sarov, qui est un saint russe très célèbre.
C'est une église serbe orthodoxe ici, en Pays de Gascogne. Vous êtes vraiment bien inculturé ici en Gascogne.
Il n'y a aucun problème,
tout
oui.
Ce que je vois, c'est la patronne de la Gascogne.
Voilà,
les icônes, vous avez renouvelé les icônes avec des saints.
On pourrait dire avec les gens gascons, mais c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est tout. Ouais. Mais l'Occitan, ça ressemble quand même, oui. Ça, c'est une icône de Saint-Nicolas, très ancienne. Le tsar en Russie, quand il partait sur les champs de guerre et autres, il emmenait une statue, une icône comme ça de Saint-Nicolas. Là, c'est une icône encore avec des pierres précieuses, c'est Notre-Dame du Bon Conseil, qu'on vénère en Italie, mais qui était autrefois en Serbie. Et elle a été transportée par des anges en Italie, selon la tradition, et nous l'avons reproduite.
D'ailleurs, elle a un aspect italianisant.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a plus rien à voir avec les icônes russes.
C'est vrai. Mais
c'est avant la Renaissance.
Nous, comme on est latins, donc on aime bien aussi les icônes latines, quand même. C'est pas... Là, c'est une icône très, très ancienne, qui a toute une histoire. C'est Notre-Dame, source de vie. Ouais, c'est la fontaine, et la Vierge est en haut. Napoléon Ier l'a volé en Égypte. Et alors, il l'a donné avant de mourir, ou quand ils étaient, à un maréchal qui était dans le Tarn, qui est mort.
Soult.
Voilà, le maréchal Soult, elle l'a eu. Et comme il n'avait pas d'héritier ni d'enfant, il n'était pas marié, il l'a donné à des religieuses avant de mourir, qui étaient à Toulouse. Ces religieuses de Toulouse ont fermé il y a une dizaine d'années leur maison, et elles nous l'ont donné en disant qu'elles voulaient revenir à l'église orthodoxe. C'est pour ça que nous avons cette très belle icône ici.
Et on dit souvent, on écrit une icône, on ne peint pas une icône.
Oui, on écrit, oui, mais en fait, tout ça, c'est dans les mots, oui, bien sûr, on écrit, oui, c'est vrai.
Mais bon, ça veut dire quelque chose quand même, cette différence de termes.
Oui, parce que je pense qu'on prie tellement en même temps que ça fait comme une prière, et donc on écrit une prière, voilà, si on veut, c'est pour
ça. C'est vénérer une icône aussi,
c'est vénérer, oui, c'est pas adorer, donc c'est vénérer.
Et Saint-Génis, c'est un saint d'ici ?
Oui, il est mort ici, voilà son crâne. Ben, il a vécu au IVe siècle, alors vous savez, il n'est pas d'hier. Hein. Là, c'est une très belle croix de Géorgie qu'on nous a offert, la Géorgie, les pères de Géorgie. Nous avons beaucoup de Géorgiens à la paroisse d'Albi. Il y a une communauté importante de Géorgiens. Et donc, ils nous ont offert cette croix géorgienne.
Ouais. Des Géorgiens qui sont arrivés récemment.
Oui, ils sont plus récents, les Géorgiens, que les Russes ou les autres. Oui. Mais bon, en Géorgie, c'est pas le Pérou, ils vivent un peu dans la difficulté. Alors donc, et puis bon, le gouvernement ne fait pas grand-chose non plus. Alors.
Ouais. Et ici, autour de Lectoure, la communauté orthodoxe serbe vient d'où ? Ce sont des...
Oui, ils travaillent à Jeun, tout ça.
Ils sont déjà installés depuis un petit moment.
Les Roumains, ils sont installés depuis un certain temps. Il y a des docteurs, il y a beaucoup de docteurs roumains. Ils sont à l'hôpital des deux hôpitaux Sudoche et celui d'Agen, il y a beaucoup de médecins roumains. Et donc, il y en a qui sont installés ici. Nous avons une qui est infirmière en chef à Condom, par exemple. Voilà. Ce sont des gens qui ont une grande foi, les Roumains. Ils sont plus que d'autres pays orthodoxes, quand même. Hein. Puis ils sont latins, donc on se comprend mieux. Alors là, j'ai gardé deux statues que j'ai mis exprès. Ici, Saint-Antoine le Grand. Et donc le patron des moines, puisqu'on est des moines, et elle a été sculptée, elle est du XVe siècle, même le bâton fait partie du bloc de bois, il n'a pas été rajouté. Et de l'autre côté, on a trouvé une statue de Saint-Jacques de Compostelle, du XVIe siècle aussi, et comme on est sur le chemin de Saint-Jacques, on l'a mis, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de statue, mais on a mis ces deux statues. Là on a c'est le baptistère. On avait un baptême la semaine dernière d'un petit Géorgien, une petite Géorgienne, voilà. Elle avait 15 jours. Alors là, donc, c'est le baptistère. Et là, vous allez voir, on a créé des icônes de tous les saints d'Aquitaine et d'Occitanie. Alors, vous avez les saints tous les saints de ces provinces, voilà, la Gascogne. On a fait des saints, des icônes, des saints du local, voilà. Là, on a une icône très ancienne qu'on a sauvée du Kosovo pendant malheureusement, le Kosovo est dans un triste état en ce moment. Et donc, on a pu ramener cette icône pour la protéger, voilà.
Vous y allez, vous y êtes allé ?
Non, moi, je ne suis jamais allé au Kosovo. Ouais. Des pères sont allés au Kosovo, mais moi, non. Je ne peux plus prendre l'avion parce que je suis cardiaque, alors c'est un peu compliqué d'aller au Kosovo sans prendre d'avion. Là, c'est les saints abbesses des Gaules. Voilà, on a les moines hélémoniales, des grandes saintes, Sainte Radegonde. Et puis en haut, ce sont les pères de l'Église aussi. Là où il y a une grande icône de Pâques. Nous avons les reliques aussi de Saint Louis, roi de France. Mm-hmm. Vous pouvez rentrer. Et là, Louis XVI, parce que Louis XVI, il y a une icône, parce que les Russes vénèrent Louis XVI comme un saint. Et donc, ils ont fait une icône et que nous avons reproduite parce que Louis XVI a offert ici le 14 juillet 1779, il a fait un don pour restaurer cette église. Et alors, on l'a vu trouvé dans l'histoire, donc on a mis Louis XVI, et voilà, et on a mis donc ces renseignements. Et là, c'est Saint-Louis. Et donc, voilà l'icône qu'ils ont à Moscou, où ils ont Louis XVI comme... Il a défendu la foi, voilà. Et il est mort martyr aussi. Et là, c'est la famille impériale, donc ce sont tous des martyrs, voilà. Ils ont tous été massacrés. On les a retrouvés il n'y a pas longtemps, les reliques.
Votre accent, je me doute que vous êtes français. Vous êtes né ici en France. Vous êtes né dans une famille orthodoxe ou bien c'est petit à petit que vous êtes venu vers l'orthodoxie ?
Non, je suis né dans une famille catholique pratiquante qui, par la suite, n'a plus pratiqué en fait et a découvert l'orthodoxie.
Votre famille a découvert ?
Voilà, oui. Ma mère plus particulièrement. Et elle est devenue orthodoxe, et c'est de cette manière que nous sommes devenus orthodoxes, parce qu'en fait, elle était partie du principe qu'on choisisse nous-mêmes, enfants, notre religion. Donc on a découvert l'orthodoxie en même temps qu'elle, et on est devenu orthodoxe. Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes prêtre et moine ?
Oui, tout à fait. Depuis, je suis rentré au monastère depuis 25 ans. C'est un appel et, auquel on répond très vite, puisque il y a... Je ne saurais pas comment l'expliquer avec des mots, mais c'est voilà, on est appelé et soit on répond oui, soit on répond non, mais ça arrive très vite. On se sent appelé et pour moi, ça a été oui et je ne le regrette absolument pas.
C'est ici votre vocation, donc vous la vivez ici, dans cette terre gasconne, sur ce petit bout de terre occitane. Est-ce que vous pourriez me présenter, enfin, très globalement, les divers visages de la communauté ?
Les divers visages de la communauté orthodoxe, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on est un petit peu issu un petit peu d'endroits différents. Bon, moi, je suis gascon, je suis né à côté de Bordeaux. Le père Abbé, lui, est de Vienne, dans le Dauphiné. Donc, et après, on a un moine aussi qui est serbe, qui vient de Serbie et qui aujourd'hui aide à Paris l'évêque. Donc on est un petit peu tous de régions différentes et ça permet d'apporter différentes richesses quoi, en fait, par rapport au caractère des gens qui sont différents et qui sont complémentaires.
Mais les fidèles, la communauté des fidèles.
Alors la communauté des fidèles, on a une grande partie de gens français hein, qui sont d'anciens catholiques qui ne pratiquaient plus et qui sont revenus vers l'orthodoxie parce que c'était plus traditionnel, plus conforme pour eux à ce qu'était leur foi. Et ensuite, on a beaucoup de gens issus de l'immigration, donc des Russes, des Ukrainiens, des Roumains, des Moldaves qui viennent en complément. Et on peut dire qu'on a à peu près 75% de gens français, enfin de différents horizons. On a pas mal de gens italiens, espagnols, portugais aussi. Et ensuite, après, les 25%, on va dire, ce sont des gens de pays traditionnellement orthodoxes.
Des gens qui se rassemblent, donc qui se retrouvent ici dans cette église, cette foi, les fédères.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on a des gens vraiment de tous les horizons et qui, à l'église, se retrouvent un, en fait. Et il n'y a plus toutes ces différences d'ethnie, de langue. Et on se retrouve tous... Unis, et c'est ça qui est beau.
Et vous célébrez dans quelle langue ?
En français, avec quelques parties en roumain, en russe et en grec.
Après, si tu veux ouvrir la salle Notre-Dame, je vais me le montrer.
Et Père Antoine, je vois que vous avez toujours le chapelet depuis qu'on est arrivé. Vous avez le chapelet dans les mains.
Oui.
Vous l'égrenez,
voilà,
ce chapelet
oui. Oui, oui. Mais même dans le, quand on prend l'autobus, on ne se gêne pas, on n'en est pas. Et il vient, c'est du bois de Jérusalem et c'est la croix de Saint-Antoine. C'est pour ça que j'ai ce chapelet, parce que moi je m'appelle Antoine et c'est le taux. Voilà.
Ah oui, le taux. Et donc pour vous, c'est une prière continuelle ?
Oui, mais nous on ne dit pas le Je vous salue Marie, on dit Kyrie eleison, Kyrie eleison. Voilà. Donc Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. Moi bon, je dis en latin, voilà, Kyrie eleison, en grec, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Là, il y a l'église.
L'église, oui, et le monastère de ce côté, voilà.
Un monastère qui n'est pas ouvert au public, aux fidèles.
Non.
C'est comme la clôture, quoi. Vous vivez dans la clôture.
Là, voilà, c'est ça. Oui. Mais on a une hôtellerie maintenant. On a restauré un bâtiment de l'autre côté.
Oui.
Et donc, on appelle Béthanie. Et les gens qui viennent faire des retraites, qui viennent, ils font leur cuisine. Il y a une chapelle aussi, voilà. Ça tombait en ruine, ce bâtiment. Je ne sais pas si vous avez connu, ceux qui sont de Lectour, peut-être, le bâtiment qui était là, derrière.
Et c'est vous qui l'avez restauré ?
On l'a restauré, oui, avec des Ukrainiens, voilà, que nous avons des fidèles. Donc là, c'est le monastère. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a 4 pièces par étage. Et elles sont immenses. Moi, j'ai une chambre qui fait 8 mètres de long, qui fait 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Alors, on ne chauffe pas, il n'y a aucun doute. On a des couettes.
Des bonnes couettes.
Moi, j'en mets deux.
Vous êtes combien ?
Eh bien, on n'est pas tous là en permanence, mais en tout, on est 8. Mais on est en permanence 2 ou 3, voilà, parce que bon, il faut. On essaie à les paroisses, donc c'est compliqué.
Donc vous allez visiter les familles aussi ?
On va visiter les familles et venir à les maisons.
Et c'est cloche, là, ces grandes cloches ?
Oui, elles viennent de Tarastex, près de Tarbes. Le père Mercier a restauré un monastère, il a voulu des plus grosses cloches encore. Donc il nous a vendu celle-là, qui était plus petite. Ces deux clochetons, ils ont été rajoutés donc, au 19e siècle. Alors donc, on a acheté par morceaux. Là, on a fait une salle Notre-Dame où on fait des agapes. Après les grands messes, on fait des agapes. Voilà. Donc c'est là c'est l'évêque quand il vient, parce qu'il est handicapé. Donc maintenant, il peut pas monter trop d'escaliers.
L'évêque, il est à Paris, votre évêque ?
Il est à Paris, oui, c'est ça. Donc ici, c'était un bâtiment qui était entièrement en ruine, que nous avons restauré. Nous avons pu acquérir cette grille qui était du Carmel d'Auch, qui est fermée il y a pas mal d'années. Mais le commissaire Prisot, qui est un de nos amis, nous a remis cette grille. Donc on l'a sauvée. Et derrière, c'est la salle du chapitre des moines. Voilà. Et donc, vous avez en bas des icônes. Il y en a près de 150 qui sont faites toutes par la même centenière. Qui est morte maintenant, à 94 ans, 92 ans. Elle était à Marseille, Simone Jouglas, elle était très renommée. Et donc, elle a fait tous ses santons. Et chaque fois que j'allais la voir, parce qu'elle m'invitait à Marseille, je revenais avec 7-8 santons qu'elle faisait pour nous. Voilà. Elle a commencé à faire des icônes en 1944, voilà. Et elle est morte, en 2003.
Ah, vous dites icônes, nous on dit santons.
Hein ?
Vous dites des icônes, pour nous ce sont des santons ?
Non, c'est des santons, oui. J'ai pas dit que c'est des icônes, mais là c'est moi qui ai fait une erreur. Voilà. Elle est là en photo, là, vers la fin de sa vie, et là quand elle était en Provençal. Alors vous avez donc, bien sûr, Saint-Joseph, le Christ, l'âne, et la Vierge Marie, et puis les rois mages, et puis après il y a les chefs d'église orthodoxes, il y a un moine, il y a un catholique romain, il y a un protestant, après il y a les rois mages, et puis après tous les métiers, voilà.
La personnalité surprenante et bien affirmée du père Antoine nous questionne quelque peu. Comment, sur ce petit bout de terre gasconne, ces moines orthodoxes de la tradition serbe ont-ils été accueillis ? Comment sont-ils perçus aujourd'hui ?
On ne fait pas de bruit, on n'embête personne, voilà. On ne plaît pas à tout le monde, mais bon, nul ne plaît à tout le monde. Le principal, c'est de plaire à Dieu. Il y en a qui nous disent qu'on est une secte, vous savez, on peut tout dire, mais les gens qui ne sont pas cultivés, c'est facile.
Les gens ne sont pas habitués à l'orthodoxie.
Plus on est français, alors bon, ça fait encore pire. Et si encore on parlait russe, ils diraient, bon, c'est des vrais. Oh, dites... Ici, sur les tours, on est bien perçu maintenant, quand même. Il n'y a rien à dire, quand même. Hein. On était bien qu'archiprêtre qui est parti. Ouais. Donc, il venait ici pour les fêtes, voilà. Ouais. Nous, on allait...
Mais il a fallu du temps avant de gagner la confiance, avant justement de, que vous puissiez être à l'aise dans la région.
Moi, je suis populaire avec tout le monde, parce que je ne suis pas du tout compliqué. J'embrasse tout le monde, ou presque.
Ouais. Mais très... avant de vraiment se faire accepter.
Oui, bah, c'est-à-dire que pour eux, c'était tout nouveau. Ouais. Donc, à partir du moment qu'on a commencé à se mélanger avec la population, ils ont compris qu'on n'était pas là pour... on était là pour la vie spirituelle.
C'était donc aujourd'hui une immersion au sein de la fraternité Saint-Benoît du monastère Saint-Genis. Pour en savoir davantage, vous pouvez toujours consulter leur site ou tout simplement aller les rencontrer à Lectoure.